des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril. D'autres.
Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
Vous écoutez
Martineau,
Cube Radio.
Alors, de tous les chroniqueurs du Québec, Christian Rioux, l'excellent correspondant pour Le Devoir à Paris, est probablement celui qui aime et qui soigne le plus sa langue, la langue française. C'est un amant de la langue française. Et pour Christian, un mot, c'est important. On ne peut pas utiliser un mot à toutes les sauces et lui faire dire n'importe quoi. Malheureusement, ce cher Christian doit souffrir énormément ces temps-ci parce qu'on vit à une époque où on fait dire n'importe quoi justement aux mots. On les sort de leur contexte. Là, actuellement, avec l'histoire des pensionnats autochtones, on parle de charnier, on parle de génocide. Il est avec nous, Christian Rioux, bonjour.
Bonjour, Richard.
Donc, vous vivez à la mauvaise époque, vous qui êtes un amoureux de la langue française. Dieu qu'on lui fait dire n'importe quoi à la langue.
Oui, probablement que je me suis trompé d'époque. Ça se pourrait, faudra en parler à ma mère. Mais bon, écoutez, on choisit pas son époque. Et je pense que quand même à notre époque, il y a des gens qui sont attachés au sens des mots. Surtout quand on travaille là-dedans. Hein. On est journaliste, vous l'êtes, je le suis. On travaille avec les mots et on sait bien qu'un mot puis un autre, ça veut pas dire la même chose. Et je pense qu'on voit. Moi, je suis fasciné de voir comment dans ces espèces de grandes cérémonie d'autoflagellation qu'on vit hein, depuis quelques années. On a vécu ça avec la mosquée de Québec, on a vécu ça avec George Floyd, hein, un événement qui s'est même pas passé au Québec. On a vécu ça avec George et Kaken, et là on vit ça avec Kamloops et avec London, et à chaque fois on a l'impression, évidemment ce sont à chaque fois des drames dont personne ne peut nier le caractère terrible, le caractère violent, mais à chaque fois on vit une sorte d'enflure et d'inflation verbale. Hein. On commence par dire qu'on a découvert une fosse commune, on a découvert des corps. Vous savez, ce sont des enfants à Kamloops qui sont probablement morts de tuberculose. Il n'y a personne qui a assassiné ces enfants-là. Et là, tout à coup, on parle de charniers. Hein. Quand on parle de charniers, on imagine qu'ils ont été mitraillés sur le bord de la route. Et c'est pas ça qui s'est produit. On parle d'enfants qui ont été, évidemment, et ça c'est terrible, qui ont été enlevés à leurs parents. Après, on parle de kidnapping, et puis après on parle de rafle. Vous voyez cette espèce d'enflure des mots, on dirait que c'est à qui trouverait le mot le plus affreux pour décrire l'événement, sauf que on comprend plus rien à ce qui se passe. À un moment donné, une fois qu'on est en train de parler de génocide pour les autochtones, par exemple, pour les autochtones du Canada, on finit par ne plus rien comprendre. Je veux dire, ce qui s'est passé au Canada, c'est pas ce qui s'est passé en Arménie avec les Turcs, c'est pas ce qui s'est passé en Allemagne avec les Juifs ou au Rwanda avec les Tutsis. Il y a des choses et il faut les bons mots pour parler de la bonne affaire. C'est pas je le dis simplement là, il faut les bons mots. Vous savez que je conviens que les Indiens n'ont pas vécu une situation charmante et agréable. Ils ont vécu des violences, ils ont vécu surtout une tentative réussi en bonne partie d'assimilation, et s'il y a des gens qui le savent, c'est bien les Québécois, parce qu'on a subi un peu la même politique, hein, le même objectif. En tout cas, les Britanniques avaient cet objectif de l'assimilation culturelle, et ça ils ne s'en sont pas cachés à notre égard. Mais pour parler de ça, il faut, je vous dirais, savoir raison garder, tout simplement. Et je pense que c'est le rôle, en particulier, notamment de la presse écrite, d'essayer de ramener les choses à leur juste mesure, sans tomber dans l'inflation verbale.
Et j'ai une consoeur aujourd'hui dans le journal, José Legault, qui parle de charnier en parlant des pensionnats autochtones. Et bon, dans ma tête, moi, charnier, c'est comme ce qui s'est passé à Katyn. On est dans les années 40. L'armée soviétique entre en Pologne, fait une rafle, prend des milliers d'officiers de l'armée polonaise, les amène dans une forêt, la forêt de Katyn, et les abat avec d'une balle dans la nuque et les jette dans une fosse commune, et c'était découvert après. Ça, c'est un charnier.
Absolument, absolument. Charnier, ça évoque immédiatement une violence du type de celle dont, que vous venez de décrire. La même chose avec un génocide. Un génocide, c'est l'assassinat systématique, conscient, organisé, planifié d'une population, d'une culture. Je veux bien qu'on ait tenté d'assimiler les Autochtones. C'est abject, c'est affreux, c'est dramatique, mais ce n'est pas un génocide.
Mais est-ce que quand même on a mis des gants blancs quand même lorsqu'on a utilisé génocide culturel? Est-ce que ça serait acceptable? C'est-à-dire qu'on a voulu tuer leur culture et tuer leur langue?
Oui. Génocide culturel, je vous dirais que bon, au début, cette expression me choquait un peu parce que génocide, c'est pas culturel, hein. Mais bon, disons que oui, culturel, au moins on identifie de quoi il s'agissait, c'est-à-dire qu'il s'agissait de faire disparaître une culture, des mœurs, mais pas d'éliminer physiquement les gens. C'est pas ça que les pensionnats autochtones voulaient faire. Quand on veut éliminer des gens, on crée pas des pensionnats. Même si les conditions de vie dans ces pensionnats étaient, semble-t-il, très élémentaires et qu'on y mourrait facilement. Ceci dit, il faudrait aussi, je pense, remettre tout ça dans son contexte, hein, quels étaient les taux de mortalité infantile en 1890 dans le nord de la Colombie-Britannique. En France, je peux vous dire que c'était 1 sur 2 qui mourait. Un enfant jusqu'à... Les enfants se rendaient entre 0 et 10 ans. Il y avait au moins 1 enfant sur 2 qui mourait. Tuberculose, imaginez toutes les... Alors, imaginez ce que ça devait être dans les populations autochtones. Et dans les pensionnats à cette époque-là. Donc, je pense qu'il faut, c'est essentiel de remettre toutes ces choses-là dans leur contexte. Et ajoutons aussi le cas particulier du Québec qui n'a pas du tout connu la même intensité et les mêmes problèmes que l'immense majorité des pensionnats qui étaient d'ailleurs majoritairement, essentiellement au Canada anglais.
Et lorsque tout devient raciste, ben plus rien n'est raciste. Lorsqu'on utilise le mot racisme, qui est un mot lourd de sens, lorsqu'on l'utilise pour tout et n'importe quoi, lorsqu'on dit que, je sais pas moi, les dentifrices qui blanchissent les dents sont racistes, à un moment donné, il n'y a plus rien qui est raciste, et c'est ça qui vous inquiète un peu.
Ben, ça m'inquiète parce que la moindre manifestation, le moindre petit mot de travers aujourd'hui est qualifié de raciste. Il y a des gens qui ont des expressions qui sont pas très très châtiées, qui ont effectivement des connotations racistes. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là pratiquent de manière systématique des politiques racistes et de discrimination raciale à l'égard des gens? C'est ça le racisme, hein? C'est tout à fait différent. Claude Lévi-Strauss, que j'ai eu l'immense chance d'interviewer il y a pas mal d'années.
Ah oui, chanceux.
À Paris, qui parlait il était presque centenaire déjà à l'époque, parlait, lui, d'une forme de xénophobie naturelle dans tous les peuples. Il disait, tous les peuples ont une forme de xénophobie naturelle. C'est normal, ils se protègent, hein? C'est comme la famille, le sentiment familial. On protège notre famille, on protège pas d'abord la famille du voisin. Donc, évidemment qu'on a ce type de xénophobie, mais de là à faire de ça du racisme, je veux dire, c'est radicalement différent. Le racisme, c'est vraiment une politique organisée qui considère que certaines races sont supérieures à d'autres. C'est pas l'ouvrier qui lâche un mot de travers parce qu'il a croisé un arabe ou qu'il a croisé un étranger ou un italien qui nomme pas de la bonne façon. Là. Voyez, je vous dis pas que ces expressions, que ces façons d'être sont justifiées, mais on n'érige pas ça en politique raciste. Voyez, et si on fait ça, on confond tout. Et aujourd'hui, quand j'écoute les politiques, quand j'écoute les antiracistes, en fait, je me demande qui n'est pas raciste, à part les militants de ces organisations-là. Et encore.
Exactement. Et Christian, par exemple, je prends un exemple. Mettons, il y a des gens qui vont dire le milieu du théâtre au Québec est raciste parce qu'il n'y a pas beaucoup de comédiens noirs sur scène. Mais moi, je dis, attends une minute, là, est-ce qu'on empêche les noirs d'avoir accès à des rôles? Est-ce qu'on dit, tu n'auras pas ce rôle-là, tu ne pourras pas monter sur scène parce que tu es noir? Non, il y a toutes sortes d'explications possibles dans le fait que peut-être qu'il y a moins de noirs qui s'en vont comme comédiens. Mais on saute tout de suite sur la première explication, c'est le racisme.
Absolument. Je me souviens que Denis Arcand était venu lancer, il y a plusieurs mois, était venu lancer son dernier film à Paris et avait expliqué à peu près ça, c'est-à-dire, écoutez, laissez-nous le temps. L'immigration haïtienne, en particulier au Québec, date à peine des années 60. Des Noirs, avant les années 60, au Québec, on les comptait sur les doigts de la main. Il y en avait quelques-uns dans l'Ouest Island ou dans Pointe-Saint-Charles, mais les Québécois francophones ne se rendaient pas souvent dans ces régions-là. Donc, laisser le temps aux choses de se faire. Et c'est ce que disait Denis Arcand, d'ailleurs. Il dit, écoutez, ça ne sert à rien de mettre des quotas. Laissez le temps aux choses de se faire.
Il va y avoir
des comédiens noirs. Il va y avoir des comédiens...
Il y a pas beaucoup de comédiens asiatiques, mais il faut savoir aussi que dans la communauté asiatique, chez les parents asiatiques, c'est très mal vu de devenir comédien. On veut que les gens deviennent scientifiques, mathématiciens, ingénieurs. Donc, il y a beaucoup... C'est ça, là. C'est pas du racisme, là.
C'est pas du racisme. Chaque communauté, chaque nation, chaque ethnie a sa culture propre. Et dans les on sait bien que chez les Asiatiques, on valorise la formation scientifique. Par exemple, dans les populations arabo-musulmanes, on valorise le commerce. Historiquement, les Arabes sont des grands commerçants qui transportent des marchandises d'un bout à l'autre du monde. Ce sont pas des producteurs, ce sont pas des artisans. Producteur, vous voyez. Le français, par contre, adore être... C'est un artisan qui fabrique du fromage, qui fabrique du saucisson, qui fabrique des petites choses et qui fait des produits de luxe, vous voyez. C'est pas pour rien que la France est bonne dans les produits de luxe. Donc, chaque culture est différente et évidemment, ça fait en sorte que les populations sont portées plus ou moins vers un certain nombre de métiers. Et je pense qu'on n'arrive plus à parler de rien quand tout est raciste, quand tout devient raciste. Et quand, en plus, je reviens au cas des pensionnaires autochtones, quand on refuse de faire la différence entre ce qui s'est passé au Canada anglais et ce qui s'est passé au Québec, je vous le dis, la situation des pensionnats au Québec a été radicalement différente. Il y en a eu d'abord beaucoup moins. Ils ont été créés à partir de 1950. Imaginez les conditions de vie en 1950 et celles en 1890 à Kamloops. Là. Mais on est dans des mondes complètement différents.
Et Christian, je veux en profiter pour vous demander, est-ce que selon vous, la réputation du Canada, l'image du Canada est entachée par cette histoire-là? Vous êtes en Europe, vous êtes en France, vous pouvez le voir, parce qu'on en a parlé dans les journaux français, parce que le Canada, on le sait, c'est un pays de boy scouts, c'est encore là, un pays gentil, bon, on le voit aussi, qui est incarné par Justin Trudeau, qui est toujours en train de pleurer puis s'excuser. Est-ce que là, soudainement, lorsqu'on a vu ça, ça a entaché un peu l'image qu'on a du Canada?
Je pense que oui. Je pense que oui, mais je vous dirais que l'image du Canada est déjà un peu entachée par toute la question du pétrole et des sables bitumineux d'Arthabasca. Donc oui, mais effectivement, cette question a fait le tour des médias, pas toujours traitée avec toutes les nuances qu'il fallait. Mais moi, je pense en tout cas que la question des pensionnats autochtones, en particulier, est vraiment l'expression des politiques d'assimilation de à la fois de l'Empire britannique et évidemment de son rejeton le Canada. C'est ce qu'on a subi nous au Québec de façon très concrète. Rappelons-nous le cas des écoles françaises en Ontario où les francophones n'avaient pas droit à leurs écoles. Évidemment c'est moins dramatique, c'est moins grave que d'enlever des enfants à leur famille, mais c'est le même type de politique et je pense que quelque part cette histoire des pensionnats révèle en tout cas à nouveau cette politique systématique d'assimilation que pratiquait l'Empire britannique, assimilation relativement violente et énergique. Là.
Mais c'est un texte très courageux parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de dire oui, c'est épouvantable ce qui est arrivé, mais ce n'est pas un génocide. Oui, c'est atroce ce qui est arrivé, mais on ne peut pas parler de charnier parce qu'on va dire, ah, vous banalisez ce qui s'est passé là.
Il ne s'agit pas de banaliser rien, en fait. Il s'agit de comprendre la spécificité de chaque chose. Si on veut répondre à l'appel de nos confrères autochtones qui évidemment veulent connaître la vérité là-dessus, il faut être précis, il faut être exact, il faut pas tomber dans la démagogie qui dans laquelle tombent les politiciens et malheureusement même les journalistes. Il faut être précis, il faut avoir des termes exacts, il faut savoir exactement ce qui s'est passé passé. Et il s'agit pas de comparer les malheurs. Il s'agit pas d'être plus, d'avoir souffert plus ou moins que les Arméniens ou c'est assez abject de se lancer dans ce genre de concurrence de la souffrance. Malheureusement, beaucoup d'ONG aujourd'hui, on dirait, veulent toujours se lancer dans cette espèce de concurrence. Non, c'est moi qui ai le plus souffert. Non, c'est moi. Mais nous, les journalistes en particulier, soyons précis, soyons exacts, sachons distinguer les faits sans rien minimiser, sans rien cacher, sans rien mettre de côté, mais sachons mettre les mots exacts, à la fois distinguer ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones, distinguer d'un génocide, distinguer aussi au Canada ce qui s'est passé au Canada anglais, ce qui s'est passé au Québec, parce que c'est pas vraiment la même chose.
En tout cas, merci pour votre texte. D'ailleurs, vous citez Raymond Aron et Verlaine, donc votre texte est aussi lucide qu'un essai de Raymond Aron et aussi amoureux de la langue française que Verlaine. Voilà. Donc, merci Christian Rioux.
Vous gênez, là. Merci infiniment, Richard.
Merci.
À bientôt. Bye.